Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année malgré le contexte sanitaire. Libre à vous est de retour sur la Radio Cause Commune. Notre sujet principal porte aujourd'hui sur le thème contribuer au libre, avec également au programme la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac, consacrée au thème l'écrasement des données sur les disques durs, et la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dil Morandi, sous le thème Le numérique que nous voulons. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 11 janvier 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred.
Bonjour Isa, c'est un plaisir de réaliser ma première émission pour toi et j'espère être à la hauteur. Bonne émission à toutes et tous.
Je l'espère moi aussi, bien évidemment. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique « Que libérer d'autre que du logiciel ?» avec Antanac consacré au thème « L'écrasement des données sur les disques durs ». Il s'agit d'une rediffusion d'une chronique qui a été diffusée en direct le 2 octobre 2021. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après.
Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le recondissement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le sujet du jour, l'écrasement des données sur les disques durs. Bonjour Isabelle.
Bonjour Fred. Bonjour à tous et toutes.
Vous écrasez des données, c'est ça ?
Ah bah alors justement, c'est un vrai problème, mais tu vois, je suis contente parce que ce qu'on vient d'entendre là avec tes invités précédents, je suis sur la droite ligne, je suis trop décalé puisque donc vous parliez de droit à la réparation et qui dit droit à la réparation dit aussi à l'intérieur, on devrait pouvoir parler de droit à la réutilisation. Et alors pourquoi on parle là de la question de l'écrasement des données et pourquoi on utilise ce terme ? Bon, tout le monde sait bien que quand on veut simplement se débarrasser d'informations sur son disque, ça suffit pas tout à fait de le mettre à la corbeille et de vider la corbeille. Évidemment, les données restent là. Et en fait, on n'efface jamais un disque dur. On n'efface pas des données. La seule façon de faire quelque chose, enfin en fait, il y a quatre façons. Soit on écrase effectivement et écraser des données, ça veut dire qu'on va réécrire sur tous les secteurs d'un disque dur et on écrase avec des outils qui sont faits pour ça, nous en avons certains, des outils libres, mais qui n'ont absolument pas de certificat, c'est-à-dire que on fait des passes, plusieurs passes d'écriture de 1, 0, 0, 1 de manière aléatoire. La logique veut qu'on en fasse 3 à minima, 7 quand c'est vraiment des choses un peu lourdes ou des données archi-confidentielles, etc. Mais tout ceci sans certificat. Les autres façons de faire sont, ce que nous voyons, c'est des gens qui font de la destruction physique ou du déchiquetage. Donc là, ça veut dire qu'on détruit le matériel, on détruit les disques durs. Plusieurs entreprises nous proposent à Antanac de nous donner des ordinateurs, mais sans disque dur, parce qu'ils disent, ah ben non, nous les données, on n'a pas le temps de s'en occuper, on veut pas vous les donner, donc on va détruire physiquement nos disques durs. Ce qui est pas génial pour la réutilisation, parce qu'après il faut en trouver d'autres, des disques durs à mettre dessus, et qui donc pousse là aussi, ça favorise la production, surproduction permanente de nouveaux matériels, l'extraction qu'il faut, etc. pour le faire. L'autre façon de faire, c'est du formatage, mais là c'est pareil, le formatage, on sait qu'en fait on cache les données quand on formate, on ne les écrase pas vraiment. Ou bien, il y a aussi un procédé de démagnétisation qui demande un matériel un peu plus sophistiqué que nous n'avons pas en Tanac et qui, en plus, fonctionne pour les disques durs, mais pas pour les SSD, qu'on commence à retrouver quand même de plus souvent dans les ordinateurs.
Alors, on va préciser que les SSD, ce sont des disques durs des technologies récentes, beaucoup plus rapides, mais aussi beaucoup plus fragiles.
Voilà, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus petits, et du coup, la question, elle est encore plus compliquée pour cette question d'effacement des données. Donc, du coup, on s'est posé, ça fait un petit moment qu'on se pose cette question-là, puisque des entreprises à chaque fois nous demandent d'effacer leurs données. Certaines entreprises nous donnent du matériel et font elles-mêmes le travail d'effacer, d'écraser, de purger, chacun dit avec les termes qu'il a, les données que les disques durs contiennent. Et en fait, on s'est amusé plusieurs fois, nous, à faire un petit test avec des outils spécifiques. On a fait un test sur des disques durs qui nous étaient donnés pour être sûr que les gens avaient réellement fait le travail. Et bien en fait, très souvent, on retrouve des fichiers. C'est-à-dire que même des DSI dans des entreprises qui pensent avoir
direction informatique.
Oui, les directions des systèmes d'information ou directions des services informatiques pensent avoir fait le travail, bah parfois c'est pas complet. Donc nous, c'est pour ça qu'on le refait de toute façon, mais du coup on a regardé ça. Et par contre, quand nous on utilise notre petit outil donc de Eraser Disk qu'on a dans la pochette là, la boîte à outils UBCD, on constate que ben on a beau aller chercher, on n'arrive pas à retrouver les fichiers en question. Donc ce qu'on fait, eh bien fait. Mais quand on a une entreprise qui nous dit ok, très bien, je vous fais confiance, ça marche très bien, nous on établit un certificat, on garantit qu'on le fait et on le fait. Mais si une entreprise nous dit moi j'ai besoin d'un certificat, j'ai besoin de quelque chose dans lequel vous m'apportez une preuve matérielle ou en tout cas une preuve certifiante, ben là on n'a pas. Les seuls outils sur le marché entre guillemets qui donnent une certification de ce type là sont des outils privateurs, propriétaires, tels que Blanco par exemple, URCube qui fait aussi un partenariat avec Blanco, et ceux-là ben, on ne va pas les utiliser, ce ne sont pas des outils libres et en plus ils sont hyper chers, c'est payant, donc tu payes à la fois une licence et après tu payes à chaque fois que tu passes un disque dur dans la machine, tu repayes quelque chose. Donc il n'en est pas question. Et donc on est fort embêté. Et donc ma chronique d'aujourd'hui, elle avait pour but à la fois de sensibiliser sur ce sujet-là et en même temps de faire une espèce d'appel. Parce que quand on a voulu se préoccuper de ce sujet-là, on s'est dit, bon alors voyons, vers qui on pourrait se tourner et quelle serait la bonne façon de faire. Donc on s'est dit, les produits en question par définition appartiennent à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que c'est des communautés de libristes qui les ont mis en place. Donc comment pourrait-on faire pour que tout le monde obtienne une certification? Qu'est-ce que ça signifierait dans le monde du libre que d'obtenir une certification? On s'est aperçu qu'en fait, il y avait quand même des logiciels libres qui obtenaient des certificats, en tout cas de résultats ou de sécurité ou de choses comme ça. On s'est dit, on va s'adresser à l'ANSSI.
L'Agence nationale de sécurité.
J'allais le dire, j'avais prévu de le dire, parce que je savais. Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc on s'est dit, on va leur poser la question, tout bêtement. On est des citoyens, des citoyennes, on va poser la question. Et donc en novembre, on écrit un petit courriel à l'ANSSI. Bonjour, petite association du 18e arrondissement de Paris. Nous menons entre autres des activités de reconditionnement de matériel informatique pour soutenir solidairement la réappropriation numérique et contribuer à la baisse des D3E via la réutilisation. On leur explique notre affaire, on est confronté à cette question de l'effacement des données, et donc en fait voilà ce qu'on fait, on les écrase, mais on n'a pas de certificat. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient vers vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position sur le sujet? On n'a rien trouvé sur le site, parce qu'on a vraiment essayé de trôner partout dans leur site qui est assez complet, il y a énormément de choses, mais rien sur la question de l'écrasement des données. Et donc, on voulait avoir des informations. On a envoyé ça à 3 adresses courriels différentes qu'on avait trouvées. Et on a mis un petit mouchard, là. Et donc, il y a une des personnes a lu le mail et immédiatement l'a supprimé. On s'est dit, bon, c'est pas elle qui va nous répondre. Une autre a lu le mail, puis... silence, on n'a rien eu. Et l'autre, on ne sait pas, il n'est toujours pas ouvert, il ne devait plus être là. Bon. À part le côté amusant de la chose, c'est que on se retrouve vraiment avec un vrai problème. Une entreprise là nous dit, voilà, j'ai 100 ordinateurs portables pour vous, mais c'est à vous de faire le boulot. C'est énorme, ils ne se rendent pas compte en fait. Mmh. Ou alors si, ils se rendent compte, mais ils ne veulent pas le payer, le faire faire, payer la main d'œuvre entre guillemets pour le faire, ou ils ne se sentent pas les compétences techniques, j'en sais rien. Mais ça nous pose vraiment des soucis. On s'est dit que peut-être les CESTI, du coup, les centres... Alors ça, je ne sais plus par contre, quel est le site du CESTI.
Francis, qu'elle me regarde. Ouais, alors, en fait, je ne sais pas du tout ce que sont les CESTI.
Les CESTI, en fait, ce sont les centres qui sont agréés par l'ANSSI, par les gouvernements, etc., pour faire ces évaluations de logiciels ou d'équipements. Équipement réseau aussi. Par exemple, on a une structure comme Opida ou une autre qui s'appelle Amosis. Enfin bref, on a les CESTI, c'est des centres qui font ça, qui font en fait les évaluations, qui sont censés être. Tu l'as ?
Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information.
Voilà. Donc on s'est dit peut-être vers eux, on peut aller voir et leur dire, ben voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ça existe ? Quelle serait la procédure ? Est-ce qu'il y aurait une façon de le faire ? Donc aujourd'hui, ma chronique, en fait, elle a pour but d'appeler les auditrices, les membres de l'April, de la foule, que sais-je, enfin, tous les gens qui sont autour de ces sujets-là et qui pourraient être intéressés pour nous aider à monter, je ne sais pas, un groupe de travail, à faire quelque chose là-dessus pour arriver à un résultat. On doit, là aussi, à mon avis, saisir les pouvoirs publics sur ce genre de choses, parce que on ne peut pas parler de réemploi, de réutilisation si on continue à laisser les entreprises scratcher complètement leur disque dur sans avoir de possibilité de les réutiliser correctement. Voilà, c'est un appel.
Bah écoute, c'est un appel qui est lancé. J'espère que des auditrices ou auditeurs pourront y répondre. Nous, peut-être à notre petit niveau, ce que je peux te proposer, c'est de nous transférer ton courriel qu'on va envoyer au directeur de l'ANSSI, vu que le directeur de l'ANSSI est venu dans l'émission, donc on a son adresse. Et puis, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique qui saura peut-être le réorienter en interne ANSSI. Par contre, je ne mettrai pas de mouchard pour savoir si le directeur si de l'ANSSI a lu le courriel. Et effectivement, les gens qui n'ont jamais fait d'écrasement de données peuvent peut-être penser que c'est très, très facile, mais en fait c'est très long parce que, enfin, en fonction des outils qu'on utilise, ça peut être très long, notamment il peut y avoir plusieurs phases et donc ça demande de la ressource humaine aussi.
Alors ça demande de la ressource humaine pour lancer le processus, après c'est ça tourne tout seul. C'est long, pourquoi ? Bah parce que selon que ton disque dur il a 160 gigas ou 1 tera, bah oui, ça peut durer plusieurs heures, et donc du coup quand on a 100, c'est quand même toute une affaire, quoi. Il faut avoir une table énorme avec plein de... tu lances toutes tes petites clés USB sur tous tes portables, c'est très long. Et mais ça, à la limite, on veut bien le faire, c'est pas la question. C'est que donc si derrière l'entreprise dit et je veux avoir la preuve que,
en plus,
qu'est-ce que je fais?
D'accord, écoute, appel lancé, transmets-moi le courriel, je l'enverrai au directeur de l'ANSSI, sans garantie de résultat, mais au moins j'enverrai le courriel. Donc c'était la chronique d'Antanac par Isabelle Carrère sur l'écrasement des données sur les disques durs. Et bien, bonne fin de journée Isabelle, et au mois prochain.
Merci beaucoup.
Nous voilà de retour en direct après cette première chronique. Pour la précision, Fred a vraiment envoyé le courriel à l'ANSSI comme promis, mais je crois qu'on n'a toujours pas eu de réponse, c'est ça Fred ?
Je te confirme, j'ai envoyé un courriel à Guillaume Poupard, mais je n'ai pas eu de réponse. On fera une petite relance en ce début d'année 2022.
Très bonne idée. Et nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal qui aujourd'hui est consacré au thème Contribuer au libre. Donc pour la première pause musicale, nous allons écouter une chanson hommage à Aaron Swartz, qui était militant des libertés informatiques et de la culture libre, convaincu que l'accès à la connaissance est un moyen d'émancipation et de justice. Il s'est suicidé le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Dans l'émission 49 en janvier 2020 de Libre à vous, nous avions consacré une note de lecture du livre de Fleur Vasseur, Ce qu'il reste de nos rêves, consacré à Aaron Swartz, que vous pouvez retrouver sur libreavoue.org/49. Nous allons donc écouter une chanson hommage à Aaron Swartz. D'ailleurs, vous écoutez déjà les premières notes, qui datent de 2016. Elle s'appelle Aaron et c'est par Simon Giraud. On se retrouve juste après. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Au déjeuner, aux camarades, tombés, perdus.
Cause Commune, 93.1.
Ce jour où la grande machine a broyé par toi nous a vaincus. Rentrer dans notre beau confort, on croyait à une guerre sans mort. Croyait-on même à une guerre, notre contestation tranquille. Et le réveil est amer et plus rien n'est paisible quand on
assassine les génies qui rayonnent et glorifient les vendeurs de téléphones. Baron Aaron, pour ce que l'on donne, combien de frères qu'on emprisonne, combien de luttes qu'on abandonne. Aaron, les sanguinaires, des guerres lasses dans les athères, c'est qu'ils souffrent et qu'on est fiers. 26 printemps, combien d'hiver. Edward a fui, Julian se cache, et combien de tombes anonymes, de droits par travers qu'on arrache, la contre-attaque est légitime. Quand l'ennemi est devenu intérieur, avec pour seules armes nos peurs. Combien d'avenants dans le contrat, pour quelle excuse on marche au pas. Des biens communs aux fosses communes, tu paies le prix fort de la thune. Et ceux sont vainqueurs, pas de médaille, pas de légion d'honneur. Aaron, Aaron, pour ce que l'on donne, combien de frères qu'on emprisonne, combien de luttes qu'on abandonne. Aaron, les sanguinaires, des guerres lasses tombent la terre, c'est qu'ils souffrent dès qu'on est fiers. 26 printemps, combien d'hiver.
Venons d'écouter une chanson hommage à Aaron Swartz qui date de 2016, donc Aaron par Simon J. Giraudot, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY et SA toi 2.0, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou créez du matériel à partir de cette musique, vous devrez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous.
Libre à vous. Libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui est consacré au thème « Contribuer au libre » avec nos personnes invitées, Maïtani Lenoir alias Maïwan, membre de Framasoft pour les Contrib Ateliers, et le Libre Quotidien de Contribule. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour Maïwan, bonjour le Libre Quotidien, ou LLAQ. Ah super, je vous entends tous les deux, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc merci d'avoir participer à l'émission d'aujourd'hui pour parler de ce thème qui nous tient beaucoup à cœur. D'ailleurs notre émission est une émission d'information sur les libertés informatiques, mais qui envie aussi de donner des idées, des moyens d'action pour les personnes qui nous écoutent. Et donc contribuer au livre, c'est un thème qui matche très bien avec le but de notre émission. Donc pour commencer, je vous propose une question assez classique. Je vous propose de faire une courte présentation personnelle et d'indiquer aussi quel est le rôle dans chacune des initiatives dans laquelle vous participez. Maïwan, tu veux commencer peut-être ?
Oui, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme tu l'as dit, ben, moi, c'est Maïtane ou Maïwan, selon si on parle de mon pseudo ou de mon prénom. Et je suis designer dans la vie, donc ça veut dire que je parle avec les utilisateurs de logiciels et puis j'aide à en concevoir. Et je passe pas mal de temps à contribuer à des projets qui sont issus soit des communs, soit du logiciel libre. Et je suis membre de Framasoft depuis peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc, parmi plusieurs choses que je fais à Framasoft, j'ai participé à des contrib ateliers. Donc, j'ai participé un peu à un contrib atelier à Lyon. Et ensuite, j'ai commencé à en lancer à Toulouse, puis à Dinan, parce que j'ai déménagé au passage. Donc, j'ai emmené les contrib ateliers avec moi.
Merci pour cette première présentation. Donc, on a bien compris que tu as participé à des contrib ateliers, mais tu les as même lancés. On verra plus en détail tout à l'heure. LLAQ, ou le libre quotidien, je pourrais t'appeler de deux façons au cours de l'émission, je sais, pour prévenir nos auditeurs et auditrices. Je te laisse la parole pour une courte présentation.
Allez, alors bonjour, moi c'est LLAQ ou le libre quotidien. Je fais principalement du développement back-end. Donc le back-end, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas. Et je partage mes connaissances sur l'informatique et le logiciel libre sur mon blog et mes réseaux sociaux. Et je ne sais pas trop quoi dire, mais j'ai découvert le logiciel libre il y a quelques années quand un ami m'a pour la première fois offert un ordinateur sous Linux, alors que j'étais jusque-là assez réfractaire à Linux.
C'est une belle entrée en jeu, hein. on reçoit un ordinateur sous Linux, c'est pas mal pour commencer. Et par rapport à Contribul, tu es l'un des fondateurs, on va dire, de cette initiative ?
Alors, je ne suis pas un des fondateurs de l'initiative, mais j'ai rejoint assez vite... Donc, lors de l'appel à contributeurs de Mélie et Maïwan, mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard.
Tout à fait. Effectivement, il y a un lien très étroit entre les contrib ateliers, qui sont donc des rencontres, hein, initialement physiques, et puis on verra avec la pandémie, ça s'est déroulé aussi en ligne, et Contribul, qui est par contre un collectif, mais aussi et surtout une plateforme, donc un site web, qui permet justement de contribuer à des projets autour du libre. Donc on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc Maïwan, je te redonne la parole pour présenter cette fois brièvement, et après on pourra creuser davantage, qu'est-ce que sont les contrib ateliers, depuis combien de temps ça existe et comment l'initiative est née.
Oui, bah merci. Alors du coup, l'initiative, elle est issue pas mal de l'association Framasoft, où on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il y avait il y avait pas mal d'utilisateurs de logiciels libres, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de contributeurs. Et donc, il y avait cette espèce de gap un peu immense entre eux. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'utilisateurs pour certains logiciels libres, mais le nombre de contributeurs se compte sur les doigts d'une main. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut ramener plus de gens, et aussi plus de gens, mais des gens qui ont des compétences variées, pas seulement des développeurs, qui est un peu le premier truc auquel on pense, c'est-à-dire, pour contribuer à du logiciel libre, il faut savoir développer, il faut savoir faire de la technique, mais pouvoir brasser plus largement avec des compétences qui soient très très différentes. Et donc, Framasoft a lancé les premiers contrib ateliers, initialement c'était à Lyon. Le premier a eu lieu, alors j'ai pris des petites notes, le 26 juin 2019. Et en fait, c'est tout simplement un moment où on se retrouve, les contrib ateliers, et où il y a différents types d'ateliers qui sont proposés pour contribuer au logiciel libre ou au commun. Et donc, je pourrais y revenir, mais c'est très très varié pour ouvrir à beaucoup de types de personnes différentes. Et assez vite, Framasoft a essayé de s'en détacher, parce que le but, c'était pas qu'il y ait encore un nouveau projet Framasoft, mais au contraire, que ça puisse essaimer et que n'importe qui puisse lancer des contrib ateliers. Et donc, on parle de plein de choses variées, des logiciels, pas des logiciels, aucune connaissance en technique n'est requise sur le sujet. Et donc, comme tu l'as dit, évidemment, vous connaissez l'histoire, c'est un petit peu difficile de se retrouver ces derniers temps, et donc les contrib ateliers ont un peu muté en confine ateliers, et donc on se retrouve aussi en ligne, et ça fonctionne de la même façon. Il y a des ateliers et on contribue.
Merci, et je crois, vous m'expliquerez c'est vous-même davantage, mais je crois que Contribul, donc cette plateforme web pour mettre ensemble, comment dire, pour proposer des projets et inviter les personnes à participer, est née d'un contrib atelier, ou je me trompe ? Le Libre Quotidien peut-être veut répondre ?
Oui, alors tout à fait. Contribule est en effet né dans un contexte d'atelier. Alors, pour la petite histoire, donc.
On adore les petites histoires, donc vas-y.
Allez, alors, comme tu as dit, bon, Contribule, c'est un site qui permet de mettre en relation des projets libres qui cherchent des contributeurs et des personnes qui veulent contribuer. Donc, c'est un peu le mythique du livre, qui était d'ailleurs le nom de code du projet au départ. Et en fait, l'idée initiale de Contribule a germé lors du Fabulous Contribution Camp, qui est un événement qui a été organisé, qui a été co-organisé par Framasoft et la Quadrature du Net, qui avait pour but de discuter de la contribution au livre, et où Maïwan était présente. Et donc l'idée de Contribule a été abordée pour la première fois dans ce Fabulous Contribution Camp. L'idée est restée un peu en stand-by jusqu'à début 2020, quand Mélie, qui est designer dans le projet, a contacté Maïwan dans le cadre de son master de fin d'études en design. Et c'est comme ça qu'est né Contribule, ou plutôt ce qui allait devenir Contribule. Et en fait, Mélie et Maïwan ont commencé à chercher des contributeurs pour créer Contribule lors du deuxième Confine Atelier, donc le Contribule Atelier en ligne. Et lors de ce Contribule Atelier, les contributeurs ont commencé à créer le code de Contribule. Et puis plus tard, on a mis en place des réunions hebdomadaires pour avancer la maquette, le design, le code, etc. Et puis la première version de Contribule est sortie en février 2021, donc ça fait presque un an.
Ah, c'est joli, donc je n'avais pas en tête les dates, mais c'est effectivement assez récent, donc presque un an. Donc merci pour cette première présentation. Je vous propose d'essayer d'expliquer davantage aux personnes qui nous écoutent comment ça marche. Mettons qu'il y a une personne qui aimerait bien contribuer, mais justement, comme vous disiez, comme disait Maïwan, elle n'a pas de compétences techniques, donc elle se tâte, elle se dit mais j'ai rien à faire finalement à part utiliser les logiciels. Donc moi, je pense qu'on peut commencer peut-être par donner des exemples de projets auxquels vous avez contribué lors des Contrib Ateliers ou lors des Confine Ateliers, et des exemples de projets qu'on peut trouver sur la plateforme Contribule auxquels des personnes qui n'ont aucune compétence technique pourraient participer. Ça vous va, Maïwan, tu veux commencer?
Oui, c'est parti. Alors j'ai plein d'exemples de choses où il ne faut pas des compétences techniques pour participer. Donc des petits exemples d'ateliers qui étaient proposés au Contrib Atelier. Il y avait imaginer si jamais on était une personne malveillante qui voulait utiliser un logiciel que Framasoft conçoit qui s'appelle Mobilizon. Donc Mobilizon, ça permet de participer à des événements et d'avoir plusieurs identités. Et la designer de Mobilizon avait besoin de savoir comment est-ce qu'on pouvait détourner l'usage du logiciel pour poser des problèmes, parce que pour justement ensuite améliorer la conception du logiciel pour plus que ce soit possible. Donc il y a ça. Moi, j'ai appris à un autre moment à sous-titrer des vidéos, donc la personne elle expliquait comment utiliser le logiciel de sous-titrage de vidéos, c'était très très intéressant. On peut apprendre à créer des notices Framalib, donc des notices pour un logiciel libre, comment est-ce qu'on remplit l'annuaire de logiciel libre. Il y a sélectionner du contenu vidéo pour le mettre en avant, du contenu vidéo qui est sur Peertube par exemple, qui est un logiciel qui propose de mettre en ligne des vidéos. Il y avait aussi un atelier apprendre à communiquer, mais pour des projets libres. Donc comment est-ce qu'on fait pour communiquer, mais pas en reprenant les codes des plateformes qui ont tendance à pas avoir les mêmes valeurs que nous. Donc comment on réussit tout de même à faire parler des projets qu'on aime, mais sans reprendre des codes qui sont un peu problématiques. Il y a aussi des pôles de traduction. Enfin voilà, donc je vous ai fait un petit passage rapide de la cartographie. Il y a toujours plein de choses.
Merci. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc vous voyez bien, pour contribuer au libre, il faut pas être informaticienne. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire, et aussi sur la plateforme donc Contribule. J'ai envie d'ailleurs d'approfondir un petit peu cet aspect. Ce que j'aime bien de cette plateforme, c'est que la personne qui choisit, qui se dit j'ai un peu de temps à donner pour logiciel libre, peut même filtrer facilement par type de compétences. Est-ce que je dis juste LLAQ?
Alors oui, tu dis tout à fait juste. D'ailleurs, la fonctionnalité de filtrage des annonces n'était pas là au début de la bêta de Contribule. Elle nous a été très 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 demandée. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais ouais, pour répondre à ton autre question, à savoir quelques petits exemples des projets qui assurent on tribule. On a par exemple un projet qui ne nécessite pas d'avoir des connaissances en informatique slash développement. Il y a déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'annonces sur Contribule. Il y a déjà les annonces qui sont publiées par les porteurs ou porteuses de projets, et actuellement il y en a une soixantaine, il me semble, et les projets qui ont été sélectionnés par l'équipe de Contribule, qui sont tout en haut de la page. Donc, qu'on a appelé les contributions faciles. Et si une personne veut commencer à contribuer sans en faisant des trucs très très simples, elle peut piocher dans cette liste de projets. Donc, par exemple, il y a le projet Common Voice de Mozilla qui consistait à donner sa voix pour construire un moteur de reconnaissance vocale libre. Il y a aussi créer des fiches sur Wikipédia, créer des recettes de cuisine sur Cuisine Libre. Également. Mais pour prendre plutôt un exemple d'annonces qui ont été publiées par des porteurs ou porteuses de projets, il y a Open Term Archive, c'est un projet qui vise à archiver toutes les modifications des CGU, conditions générales d'utilisation, de centaines et centaines de sites, et fournir toutes ces données en open data. Et par exemple, Flux aussi, qui est une plateforme en ligne qui veut simplifier et apaiser la veille numérique. Je crois que MyOne travaille dessus aussi.
Tu peux répéter, s'il te plaît, le nom de ce deuxième projet dont tu parlais?
Flux. Voilà, ça s'appelle Flux. Voilà. C'est un outil, une plateforme web qui est sur le coup payante, mais qui est libre et qui veut simplifier un peu la veille numérique.
Si, voilà, parce que tu pourras l'expliquer mieux que moi, mais effectivement, les flux RSS, pas tout le monde connaît forcément ce que c'est, et ça permet effectivement de faire de la veille sur certaines pages, sur certains sites qui nous intéressent. Et je crois que j'avais zioté un petit peu dans cette annonce en particulier. Et en fait, la personne qui produit, qui développe ce logiciel, demande juste de le tester, finalement. Donc c'est quelque chose de très simple que n'importe qui peut faire. Et pour revenir à Common Voice, alors là pour le coup, si vous avez vraiment peu de temps et que vous avez envie de porter votre pierre à un logiciel libre, alors il y a rien de plus rapide, hein. Vous allez vous pouvez y accéder depuis la plateforme contribule.org. C'est le tout premier projet qui est mis en exergue tout en haut, donc ce dont tu parlais, les contributions faciles entre guillemets. Et là vous pouvez effectivement, par exemple, tout simplement écouter des phrases citées, lues par des personnes comme vous, et vous pouvez effectivement dire si la lecture, le niveau de lecture est satisfaisant ou pas, et donc aider une intelligence artificielle libre à reconnaître si quelque chose est lu correctement. Donc ça, c'est énorme d'aide, mais ça prend vraiment une minute, et vous pouvez vous-même prononcer des phrases, et ce sera à ce moment-là d'autres personnes que évalueront votre lecture. Alors c'est marrant parce que tu parles de contribution facile. En fait, je me disais c'est pas mal de mettre en exergue quelques projets comme ça. Et j'ai remarqué aussi que ce sont des projets pour ceux qui concernent par exemple la cuisine libre, Wikipédia et la cartographie. Ce sont des projets aussi pérennes, hein, c'est-à-dire que on pense, on envisage, on espère que ça durera pour toujours. Donc merci pour ces premiers exemples. J'ai envie de demander à MyOne qui organisait un contrib atelier, parce que tu nous avais dit que tu avais participé d'abord et qu'après tu les as lancés. Comment s'y prendre?
Alors moi je dirais que le principe du projet, c'est important qu'il soit essaimé. Donc en fait il suffit d'avoir envie pour lancer un contrib atelier. Honnêtement, quand moi je me suis lancée, c'était juste parce que je me suis dit il y en a pas à Toulouse, on pourra en faire à Toulouse. Et donc, si je peux donner deux trois petits conseils, en fait, il faut un lieu déjà. Donc, il faut un lieu où pour pouvoir accueillir des gens. Idéalement, ce qu'on a appris un peu des contrib ateliers de Lyon, c'est que les contrib ateliers lyonnais, ils changeaient souvent de lieu et ils prenaient parfois des coworking, peut-être des bars. J'ai l'impression. Et ensuite, ils sont allés parfois dans des bibliothèques. Donc, il y a cette possibilité-là de changer régulièrement de lieu. Et nous, à Toulouse, on a fait un choix différent qui était moi je voulais minimiser le travail d'organisation. Donc du coup je me suis dit, ok, pour minimiser, il nous faut un lieu qui peut nous accueillir de façon récurrente, qui soit ouvert à des horaires qui nous permettent d'accueillir un peu du public, donc soit en journée le week-end, soit le soir un peu, même si le soir c'est un peu compliqué parce qu'après sa journée de boulot ça m'est arrivé de participer à des contributeurs, c'est un peu fatigant après sa journée. Et ensuite, on a choisi une régularité. Donc, c'était au début, je crois, le troisième samedi de chaque mois, quelque chose comme ça. Et donc, une fois que le lieu est trouvé, nous, on a demandé aux bibliothèques. Les bibliothèques, à Toulouse comme à Dinan, on m'a dit tout de suite, oui, c'est super ce que vous proposez, venez. Donc, elles ont des locaux qui sont faciles d'accès, où les parents peuvent venir et laisser leur enfant à côté et contribuer au libre en parallèle. Et où il y a du public qui passe, où on peut discuter avec. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. Et voilà, et donc ensuite, il suffit
Excuse-moi, tu dis que c'était super, effectivement, ça rend visible l'initiative, donc on peut la promouvoir, on peut la faire connaître à encore plus de monde, donc tu as tout à fait raison, je te redonne la parole.
Du coup, c'est exactement ça, puis c'est toujours sympa d'entendre au micro un contributeur se déroule au rez-de-chaussée, donc comme ça, toute la bibliothèque est au courant. Voilà, et donc ensuite, il suffit qu'il y ait des gens qui viennent, donc il faut un peu communiquer, mais il y a des comptes contributeurs qui sont là pour ça. Avec Framasoft, on repartage, donc on essaye de faire un peu de bruit. Et qui vient a potentiellement des choses à proposer. Donc en plus, Contribule, ça peut servir à ça, c'est-à-dire qu'à la fois dans Contribule et à la fois dans les retours d'expérience des précédents contributeurs, vous pouvez avoir des idées de choses à faire si jamais vous avez l'impression que ça fait pas sens. Et en fait, vous poser avec un ordinateur dans une bibliothèque et avoir d'autres personnes qui écrivent des recettes sur le site de la cuisine libre, c'est pas très difficile. Ou prendre votre smartphone et ensuite aller télécharger une application pour remplir les horaires d'une boutique. Donc ça s'appelle, c'est Street Complete, c'est pareil, c'est sur Contribule en contribution facile. C'est pas très compliqué. Donc pour initier le mouvement, Il n'y a pas beaucoup de choses à prévoir, peut-être un peu d'anticipation. Et mon dernier conseil quand même, un truc qui est important, c'est de ne pas commencer seul, parce que moi j'ai commencé seul à Dinan par exemple, et en fait si ça prend pas, vous vous sentez un peu isolé, c'est dommage. Tandis que si vous êtes deux ou trois, au pire vous êtes deux ou trois à vous retrouver et à faire des choses, et c'est déjà suffisamment satisfaisant.
Oui, par définition, une réunion, une rencontre, c'est au moins deux personnes. Donc, je comprends tout à fait ta préoccupation d'avoir au moins une autre personne avec toi. Toutes ces astuces que tu es en train de lister, qui sont très utiles, bien évidemment, il faut trouver un lieu, comme tu disais, et ça peut aider effectivement l'organisation d'avoir toujours le même lieu et le même jour dans le mois ou dans la semaine. Toutes ces astuces, je disais, vous les avez astucieusement listé dans un document qui s'appelle Kit Contributelier et qui est disponible sur le site de contributelier.org. Et si vous avez envie de vous lancer vous aussi dans l'organisation de Contributelier, je vous recommande vraiment d'aller voir ce kit, où d'ailleurs vous trouvez aussi une partie qui concerne l'accueil de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui est très important pour moi, pour tout projet, pas que pour moi, mais pour tout projet, parce qu'en fait, si la personne est bien accueillie, si elle se sent bien, normalement elle reviendra, donc c'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'elle se sente bien, à l'aise tout de suite. Et je crois qu'il y avait aussi quelques suggestions justement concernant l'accueil de nouvelles personnes, c'est ça, Maïwan?
Alors, j'ai pas en tête la totalité du kit, mais effectivement, merci d'en avoir parlé, parce que je me suis dit, oh là là, j'ai oublié le kit, les pauvres copains qui l'ont réalisé. c'est pas sympa. Mais effectivement, il y a une dimension d'accueil très très forte, que ce soit des personnes qui arrivent et qui disent, je sais pas quoi faire, vous savez, de toute façon, vous en aurez toujours. Je sais pas quoi faire, et puis vous savez, moi, l'informatique, je suis pas très forte et tout. Donc, il faut accompagner les gens, il faut avoir une posture d'ouverture assez forte. Sinon, c'est vrai que le contributelier, c'est un peu ça le principe. Donc, ça fait pas trop sens si jamais il y a pas ça. Mais en vrai, ça se fait assez naturellement, pour peu que, puisque les gens viennent vers vous et qu'ils sont intéressés par ce que vous proposez. Après, le dialogue, il y a toujours quelqu'un qui a une petite anecdote et c'est parti et on intègre les personnes comme ça.
Merci pour ces informations complémentaires. Je redonne la parole à Le Libre Quotidien, ou LLAQ, pour savoir un petit peu comment les projets, si j'ai un projet, par exemple, autour du libre, que ce soit logiciel ou culture libre, comment je fais pour le soumettre sur la plateforme? Est-ce qu'il y a une modération, par exemple? Les projets sont soumis à validation avant publication?
Alors, non, les projets ne sont pas soumis à validation a priori. On a eu une longue réflexion autour de ça pendant nos appels hebdomadaires. Et on a décidé de ne pas le faire, déjà parce qu'on n'aura pas des disponibilités éternelles, et que donc ça aurait créé un contretemps avant la publication de l'annonce. Mais néanmoins, on a des outils de modération très très efficaces. À chaque fois qu'une annonce est publiée, on reçoit un message sur un canal spécial de modération. Et donc si on voit qu'il y a un gros souci sur l'annonce, on peut la supprimer, la modérer dans un délai très très court.
Très bien, effectivement, ça peut être aussi une modération, c'est encore mieux, une modération en posteriori. Est-ce que j'ai une question, est-ce qu'il y a le projet Contribule parmi les projets se Contribule? C'est-à-dire, je veux contribuer, par exemple, en donnant mes compétences pour maintenir le site, recevoir les messages, les notifications et donc faire éventuellement la modération. Je n'ai pas regardé, mais je me pose la question.
Alors, non, il n'y a pas de projet conclu dans les annonces. Par contre, si tu regardes dans les projets faciles, j'ai mis un petit easter egg, Contribule, pour trouver d'autres cartes comme celle-ci, en fait.
Ah, d'accord. Donc, c'est tout en haut. Trouver d'autres fiches comme celle-ci. Ah, c'est astucieux, ça aussi. Ok.
Tout à fait. Mais donc, non, du coup, il n'y a pas de projet Contribule parce que pour l'instant, on a suffisamment de personnes qui ont contribué à Contribule et que donc, on n'a pas particulièrement besoin d'aide. On préfère que les contributeurs réservent leurs forces pour d'autres projets qui en ont plus besoin que nous.
Ça me paraît très bien et c'est une bonne nouvelle qu'il y a un collectif derrière ce beau projet. À propos toujours de projets qui sont soumis, j'avais remarqué qu'il y avait une case rémunération, c'est-à-dire que quand on soumet un projet, donc il y a un formulaire tout à fait classique hein, où on décrit le projet, on met les détails, on précise donc les compétences qui sont requises pour la contribution, hein, les fameux filtres dont on parlait au début de l'émission, au début du sujet. Et puis il y a une option rémunération, c'est-à-dire qu'il y a une rémunération financière ou autre. Donc on ne prend pas en compte que les contributions bénévoles. Et donc je l'étais curieuse de savoir quelle est l'incidence de projets pour lesquels une rémunération financière ou autre est proposée et quel type de rémunération ça peut être.
Bah alors en fait déjà on a créé cette option après une réflexion sur le bénévolat des contributeurs au logiciel libre, parce que c'est vrai que pour les contributeurs qui prennent beaucoup de temps sur des projets, ça peut être très agréable de recevoir une rémunération qui n'est pas forcément financière ou en remerciement pour le temps passé sur le projet. Alors comme tu l'as dit, c'est un champ libre sur Contribule, donc c'est pas un champ limité à mettre un montant en euros. Donc le porteur ou la porteuse de projet peut proposer de l'argent ou d'autres choses, par exemple des crêpes, c'est bon les crêpes,
pas mal.
Ou alors des contreparties sur le service proposé si c'est un service en ligne.
Ah, je crois d'ailleurs d'avoir vu c'était peut-être effectivement le projet sur les flux qui proposait, vu que c'est un service payant, qui proposait un abonnement annuel, je crois, aux personnes qui contribueraient effectivement au projet. Donc ça peut être ça aussi. Et comme vous voyez, en fait, la plateforme Contribule est encore relativement jeune. Donc elle est en train de se constituer. Il y a des idées, il y a les filtres, par exemple, qui ont été demandés et ont été développés. Donc elle est en train de se construire. Elle peut encore évoluer, mais on parlera de cela plus tard. Je préfère pour l'instant faire une courte pause musicale et je vais vous proposer un titre qu'on avait inclus dans le podcast de l'émission du 16 novembre 2021 mais qui n'avait pas été diffusé en direct car on avait eu quelques soucis techniques ce jour-là. Je suis donc ravie de vous proposer ce titre en direct aujourd'hui. Donc nous allons écouter Whatever Comes My Way par le groupe Viennadito et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
d'écouter Whatever Comes My Way par le groupe Vienna Ditto, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous,
libre à vous, libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Abel Lavani de l'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Maïwan, membre de Framasoft pour les Contribateliers, et le Libre Quotidien, ou LLAQ, de Contribule. Cette émission est consacrée au thème Contribuer au Libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sous le site causecommune.fm, bouton chat. Donc, on disait effectivement que la plateforme Contribule est née assez récemment, et qui donc est destinée probablement à évoluer. D'ailleurs, sur le site de Contribule, on lit « Contribule est créé de façon itérative ». Et qu'est-ce qu'on entend par cela, LLAQ? Ça veut dire juste qu'elle est destinée à évoluer, ou il y a quelque chose d'autre? Je ne suis pas sûre d'avoir compris.
Alors tout à fait, en fait, c'est une méthode de travail très souvent utilisée dans le design. Et ça veut dire qu'on préfère avancer petit à petit en étant bien attentif aux besoins des personnes qui vont utiliser ou qui utilisent actuellement Contribule, au lieu de vouloir faire toutes les fonctionnalités d'un coup, alors que peut-être nos utilisateurs ne vont jamais utiliser cette fonction. Par exemple, on a des fonctions qu'on comptait faire normalement, mais comme on n'a eu aucune demande de la part de nos utilisateurs, ben on ne va pas les faire, ce qui permet de libérer le temps des contributeurs aussi. Et donc la première version de Contribule, qui est sortie en février 2021, est très minimale, et avec le retour des utilisateurs, on a pu estimer les prochaines fonctionnalités à développer en priorité. Et on a mis en ligne toutes les fonctionnalités. On a mis en ligne ces nouvelles fonctionnalités et on s'adapte au fur et à mesure.
Merci pour cette réponse. Tu parles du retour des utilisateurs. Par là, tu entends les porteurs de projets ou les personnes qui souhaitent contribuer ou les deux?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une campagne de retour d'expérience auprès des porteurs de projets, mais on a également reçu beaucoup. On a également reçu des retours de la part des utilisateurs de notre site. Alors qu'on n'a pas fait d'appel particulièrement à eux. Ça nous paraissait très important de faire un retour d'expérience de la part de nos porteurs de projets. Et pour l'instant, on a une personne qui nous a dit qu'elle avait trouvé un contributeur grâce à Contribule. Donc déjà, on en est très fiers. Et aussi, on a reçu quelques mails qui nous demandaient de supprimer des annonces, car il y a eu des contributions, mais on n'a pas eu plus d'informations. On ne sait pas si le projet a été annulé, si la personne a trouvé une alternative, s'il a été contacté par une personne en dehors de Contribule, etc. Et on ne sait pas quelles contributions se sont réalisées parce qu'on n'a pas eu de retour. Donc les retours manquent, mais on va relancer un appel à témoignages dans les semaines ou mois qui viennent.
Très bien, j'allais justement te demander quelles étaient les prochaines étapes. Donc je vais redonner la parole à MyOne, parce qu'on parlait du fait qu'on avance à petits pas, et il vaut mieux écouter les besoins des personnes plutôt que dépenser des énergies dans des fonctionnalités que personne n'utilise. Tout projet donc est destiné à évoluer, à s'adapter aux situations, et c'était le cas aussi pour les contributeurs, on en a parlé tout à l'heure, autant les contributeurs au temps du Covid, ça s'appelle les confinateliers, et je voulais savoir se rencontrer à distance, ça marche, hein, ça peut marcher très bien, mais voilà, ça peut aussi déstabiliser certaines personnes, ça peut pas donner envie à d'autres personnes qui peut-être participer aussi parce que pour elles les rencontres physiques étaient importantes, et du coup peut-être qu'elles sont moins intéressées à l'aspect de se voir à distance. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment ça se passe, comment ça se passera, vu que je sais que tu as probablement envie de lancer d'autres contributeurs ou confinateliers. Voilà, quelques mots sur cette expérience à distance.
Oui, alors du coup, on a effectivement les contributeurs au moment où on a dû passer à distance parce qu'il y avait le premier confinement, se sont transformés, ont muté en confinateliers, parce qu'il faut bien voir que les contributeurs, l'envie principale, c'est de se retrouver entre gens qui partagent les mêmes valeurs pour contribuer à un monde meilleur, si je simplifie. Et donc, une des choses qui sont difficiles avec les confinements successifs, c'est quand même qu'on est pas mal isolé et que se retrouver, c'est difficile, parce que même si on n'est plus confiné, les regroupements, c'est compliqué, c'est soumis à conditions. Donc, il y a eu ce mouvement de dire, si jamais se retrouver physiquement, c'est difficile, on peut se retrouver en ligne. Ça, évidemment, ça change beaucoup de choses, et en même temps, ça permet quand même des choses différentes. Par exemple, ça permet à des personnes de coins de la France où il n'y aura sans doute pas de contributeurs qui vont être organisés de pouvoir participer aussi un petit peu. Voilà, donc le premier a eu lieu j'étais petite note, 25 avril 2020. Il y a à peu près 80 personnes qui ont participé, donc ça fait quand même du monde en plein d'ateliers différents. On n'était pas tous 80 sur une seule discussion. Et il y en a eu plusieurs. Et il y a le cinquième qui est annoncé d'ailleurs. Le cinquième va avoir lieu le 20 février. Venez nombreux et nombreuses participer. Et donc la façon dont ça se passe souvent, c'est qu'on donne le lien d'un salon d'accueil où les personnes peuvent se connecter. Souvent, on parle qu'en audio, on n'a pas besoin du tout de mettre la caméra. Et depuis ce salon d'accueil, ensuite, il y a des personnes qui vous disent, qui vous font la liste de ce qui existe et vous permettent de vous dispatcher dans ce qui vous intéresse le plus. Voilà, donc c'est en général comme ça que ça se passe. De 14h à 17h, souvent, je suis pas sûre qu'on ait encore sorti les horaires du prochain, mais ça va sans doute se passer comme ça.
Tu peux rappeler le jour de la semaine, s'il te plaît?
Je suis pas sûre.
D'accord, on va vérifier tout de suite. Tu me disais c'est l'après-midi, donc c'est peut-être probablement week-end.
Oui, c'est le week-end et c'est le dimanche, merci, le Libre Quotidien.
Ah, super.
Donc dimanche 20 février, venez nombreux, et il faut surveiller un peu les réseaux sociaux pour avoir le nom du salon pour que vous puissiez nous rejoindre.
C'était justement ma prochaine question. Comment j'ai fait pour suivre l'actualité des contributeurs, d'autant plus que maintenant, comme tu disais, maintenant qu'ils sont faits aussi à distance, même si je ne suis pas de Lyon ou de Toulouse, où on l'avait fréquemment, je peux quand quand même participer à l'édition. Donc comment je vais faire pour savoir où les trouver et pour avoir l'actualité sur les Contrib Ateliers?
Alors il y a le site contribatelier.org qu'on met à jour avec les prochaines dates de Contrib Ateliers. Il y a aussi des comptes sur les réseaux sociaux, Twitter et Mastodon. Et donc il y a un compte général Contrib Ateliers. Et ensuite, si vous êtes dans une ville où il y a de façon récurrente des Contrib Ateliers, il y a un compte spécifique. Je vous laisse trouver celui qui vous conviendra le mieux.
Merci. Tu disais que il y a eu jusqu'à 80 personnes lors d'un confinement atelier, ça me paraît énorme, vraiment, c'est une belle réussite. Et bien évidemment, les personnes, comme tu disais, se dispatchaient sous les différents ateliers. Donc, je vois un point positif, c'est un autre point positif, c'est-à-dire qu'on arrive à regrouper encore plus de monde. Parce que je vois pas trop comment regrouper 80 personnes lors d'un atelier physique, par exemple, dans une bibliothèque. Donc, ça aussi, c'est un point à souligner.
Oui, complètement. Et puis c'est vrai que du coup, ça permet de faire du travail qui est un peu peut-être du travail de masse, c'est-à-dire que pour justement Contribule, il y a un moment où il a fallu faire une liste de tous les types de contributions qui étaient possibles. Et là, d'avoir pas mal de monde, ça permettait de brasser une grande variété de profils. Et donc des gens avaient des idées plutôt sur l'aspect rédactionnel, d'autres plus sur l'aspect design, d'autres plus sur l'aspect du code, de la traduction. Donc là, le nombre faisait l'intérêt. Et parfois, en Contrib Atelier, donc en physique, c'est plus simple de faire du one-to-one. Enfin, bref, de discuter directement avec une personne. Par exemple, on a fait un Contrib Atelier à Quimper. Cette année, mais aussi en 2019, il me semble, lors d'entrée libre. Et puis là, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu.
Entrée libre, c'est une manifestation qui a lieu à Quimper et qui a déjà eu lieu deux, trois fois, je crois. Il y a déjà eu plusieurs éditions.
Oui, c'est exactement ça, pardon. Donc, entrée libre, effectivement, c'est organisé par un centre social à Quimper. Il y a eu deux éditions. Et à la toute première, il y a des personnes qui venaient et qu'on n'aurait jamais vu en ligne. Beaucoup de personnes âgées qui venaient parce que c'était le centre social, dont une qui est venue et qui ne savait pas utiliser un ordinateur, par exemple. Et donc là, ça, en ligne, on n'aurait jamais pu toucher cette personne, tandis que le Contrib Atelier en physique permettait ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux et que du coup, on peut faire de tout. Enfin, on a les trois, même si on compte Contribule.
Ah oui, et vous envisagez du coup de refaire peut-être des Contrib Ateliers avec possibilité de se connecter à distance? Non, ça devient trop compliqué. Mais en tout cas, oui, tu as bien raison de dire que si on multiplie les possibilités de contribuer, c'est encore mieux. La même question sur comment se tenir à jour, comment avoir l'actualité du projet, je la pose aussi à le Libre Quotidien. C'est-à-dire que si je suis une personne qui est un peu de temps libre et qui a envie de contribuer et qui trouve que la plateforme Contribule est très pratique pour cela, est-ce qu'il y a moyen de je sais pas, s'abonner à un flux justement ou alors quels sont les moyens que je peux avoir pour me tenir à jour?
Alors, les moyens pour se tenir à jour de Contribule. Alors, déjà, si c'est uniquement pour notre actualité, on a des comptes Mastodon et Twitter. Mais si vous voulez avoir une liste des annonces qui arrivent en continu, on a un flux RSS qui est normalement dans le footer du site. Le footer, c'est la barre qui est tout en bas du site. Normalement, il y a une petite icône qui contient le lien vers le flux RSS. Et sinon, vous pouvez aussi aller régulièrement sur le site, même si c'est pas le meilleur moyen de se tenir à jour parce qu'il faut y aller et tout. Donc, le flux RSS.
Très bien. Alors, à propos du collectif Contribule, vous êtes combien de personnes en ce moment?
Alors, actuellement, on est quatre dans le collectif. Actuellement, on est quatre dans le collectif.
Très bien. Et donc, vous, comme tu disais, vous arrivez à gérer le projet. Vous préférez que les personnes se consacrent et donnent leur énergie et leur temps pour d'autres projets libres. Il y a une question qui est importante pour moi et qui vaut pour les deux projets. Tu as en partie répondu LLAQ, mais je voulais avoir aussi le retour de Marwan. N'hésite pas toi aussi à rebondir. C'est-à-dire, quels sont les retours des personnes qui participent à ces projets. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez si les personnes, par exemple, une personne qui participe à un projet revient régulièrement, ou vous arrivez à fidéliser, entre guillemets, les contributions? Est-ce que les personnes sont contentes? Est-ce que vous ajustez l'organisation des événements ou les choses que vous proposez en fonction aussi des retours? Voilà, je pense que c'est important aussi de faire évoluer les choses, justement, comme vous disiez, sous la base des retours. Donc, quels sont ces retours d'expérience?
Alors, pour les contributeurs, pour moi, on s'est beaucoup inspiré de ce qui avait été testé à Lyon par rapport à ce qu'on a fait à Toulouse, par exemple. Donc, Lyon, c'était organisé tard le soir, ce que je disais au début, et donc c'était un peu difficile de continuer à contribuer, donc de continuer à travailler après sa journée de travail. Donc, nous, on avait décalé ça dans le week-end. De choisir un lieu qui était connu et pas seulement, par exemple, un cybercafé. J'ai perdu 20 ans, mon Dieu. Un espace de coworking, c'est aussi connu d'un certain type de population, et donc de se déplacer en bibliothèque. En général, quand vous dites que tel événement se passe à la bibliothèque, il y a beaucoup plus de monde qui savent où se trouve la bibliothèque que un coworking en particulier. Donc ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Lyon. Ensuite, pour avoir été à beaucoup de contributeurs à Toulouse, c'est vraiment difficile parce que soit il y a des gens qui passent de façon très ponctuelle, et dans ces cas-là, ils viennent poser une question un peu spécifique, contribuer de façon un peu rapide, on leur présente Common Voice ou des choses comme ça, et donc du coup, à ce moment-là, ils contribuent ponctuellement, puis ils partent, et j'ai l'impression qu'ils reviennent pas. Et sinon, il y en a d'autres qui revenaient, mais c'était des personnes qui étaient déjà acclimatées au libre. Donc il y a vraiment ce point de difficulté que je trouve vraiment vraiment pas facile, qui est comment est-ce que on fait rester des personnes, on leur propose un espace où elles ont envie de revenir, et c'est compliqué pour plein de choses, je pense, déjà parce que on essaye de faire venir des gens qui sont pas dans nos cercles, et donc du coup ça prend beaucoup plus de temps que de faire venir des copains. Et aussi en ce moment je trouve que c'est difficile parce que peut-être que je vais dire des généralités, mais il y a un peu, on court tous après le temps, la vie est compliquée, surtout ces derniers temps, et donc du coup, de se dire, je vais libérer une après-midi, même si c'est par mois, une après-midi pour contribuer, et bien peut-être c'est lourd pour les personnes, et donc voilà, j'ai pas encore trouvé la solution magique pour réussir à s'organiser, à faire venir des nouvelles personnes de façon régulière, et j'ai pas eu de retour d'autres contributeurs qui ont réussi à faire ça, mais... Encore une fois, on parle d'un temps d'il y a 2 ans, donc ça commence à dater un petit peu.
D'accord. Et le fait de proposer au sein du même contributeur plusieurs projets, je pense que c'est pas évident. Par exemple, si ce soir-là, par exemple, il y a juste une personne animatrice. Parce qu'à ces moments-là, il faut dispatcher les gens sur plusieurs projets, donc j'imagine que c'est pas évident. Je sais pas si tu t'es déjà trouvé dans cette situation. C'est plus simple, non, s'il y a une soirée ou un après-midi, un projet.
Je sais pas. En tout cas, moi, systématiquement, les contributeurs où j'étais, il y avait au moins plusieurs personnes. Même moi, ce que j'ai fait à Dinan, j'avais une personne un peu complice qui était avec moi pour me soutenir si jamais j'avais des questions. Par exemple, moi, je suis pas technicienne, donc parfois il suffit pour éviter de dire des bêtises, j'avais cette personne là qui je pouvais poser des questions. Et parce que à Dinan, par exemple, je faisais une partie présentation et ensuite je proposais un aspect plus contributif où on proposait des choses. Mais là, soit les personnes, elles sont autonomes et donc du coup c'est très facile de les orienter vers des projets où elles peuvent être un peu autonomes, soit elles ne le sont pas du tout, et dans ces cas-là, en fait, qu'on propose une seule chose, ça les aide bien. Donc à Toulouse, il y avait des pôles installer un système libre sur son téléphone, apprendre à contribuer en codant, et ensuite il y avait un pôle Common Voice, et selon l'autonomie des personnes, on les dirigeait plutôt vers les uns ou plutôt vers le dernier, parce que ça serait plus confortable pour elles.
Très bien. Donc l'importance, comme tu disais, d'avoir des complices, d'avoir des co-animateurs ou co-animatrices. Tu parlais donc, comme toutes les choses, c'est une superbe initiative. Il peut y avoir quelques difficultés, on peut ressoudre en parlant, en échangeant. Est-ce que Contribule aussi a dû faire face à quelques difficultés ou quelques anecdotes à ce sujet?
Alors, non, sur le coup, on n'a pas particulièrement eu de soucis depuis le début de notre revue et on en est très fiers.
Bah, c'est génial, j'en suis ravie. Pour Contribatelier, initialement, l'objectif, c'était de faire avancer plutôt des projets Framasoft, hein, parce que disons que les personnes initialement venaient de là, mais tu me confirmes, Aïwan, que ça peut être n'importe quel projet.
Oui, oui, d'ailleurs, il faut, je me suis rendu compte en naviguant sur le site qu'on parlait encore dans la page à propos beaucoup de Framasoft, mais c'était un biais qu'on avait au début et dont on essaye surtout de se départir. Donc, il faut absolument pas ni être de Framasoft, ni parler des projets de Framasoft dans les contributeurs. L'important, c'est de parler de la culture libre, des communs et même des projets avec qui on est en phase, mais qui connaissent pas le monde du libre, en fait, et qui sont alignés avec les valeurs. L'important, c'est de faire avancer dans le bon mouvement. Donc Framasoft, à côté de ça, c'est juste l'initiateur, rien de plus.
Très bien, c'est bien de le rappeler. Et d'ailleurs, ça s'appelle Contribatelier, ça s'appelle pas Framatelier. Non, je plaisante. Mauvaise blague. Donc, à propos des projets qu'on trouve sous Contribule, c'est vraiment intéressant parce que on trouve, comme on avait dit tout à l'heure, des projets des personnes développeuses de logiciels qui demandent, par exemple, à des personnes de les tester. Et puis, je crois que j'avais trouvé même un projet posté par une personne du bureau de l'ambassadeur pour les affaires numériques, qu'on a eu l'occasion d'inviter dans une émission de Libre à vous. J'ai plus en tête le numéro de l'émission, mais comme quoi vous pouvez vraiment, j'imagine, vous pouvez contribuer même à un projet du bureau de l'ambassadeur pour les affaires numériques. Et donc, je vous invite vraiment à vérifier, à regarder, à zioter dans les fiches. Je lis des messages. Merci, c'est l'émission 88, si vous souhaitez la réécouter. Donc je vous invite vraiment à regarder tous les types de projets qui peuvent être postés. Et tout à l'heure, au début de l'émission, on parlait du fait de cette fonctionnalité qui a été incluse en fait dans un deuxième moment, qui est filtrer les contributions par type de compétences. Alors, vous pensez ne pas avoir de compétences. Et ben voilà, tout au début de la liste des compétences, il y a un bouton qui s'appelle aide facile et rapide. Donc là-dessus, vraiment, il y a même la proposition de, par exemple, de contribuer financièrement. Hein. Vraiment, c'est juste sortir sa carte bancaire. Et après, vous avez, par exemple, amélioration du contenu, audiovisuel, audiovisuel, je vais le dire, design, développement, différents types de développement, graphisme, rédaction, création de contenu, relations humaines, communication, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Maïwan, et aussi la traduction. Et je vous rappelle que aussi à l'April, pour rappeler qu'à l'April, il y a énormément de groupes de travail. La plupart de ces groupes sont ouverts à tout le monde, donc il faut pas être forcément membre de l'April pour participer. Au contraire, on essaie d'être le plus ouvert possible. Et là aussi, il y a plein de moyens de contribuer. Vous pouvez échanger, par exemple, sur les relations entre logiciels libres et le monde associatif. Vous pouvez participer en aidant à la transcription des conférences ou des émissions de Libre à vous. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Donc le temps passe vite et il y a une question à laquelle nous tenons à la fin de notre échange, à la fin de nos échanges, c'est-à-dire de demander aux personnes invitées quelles sont les idées, les idées plus importantes, un message qu'elles souhaitent faire passer ou les idées plus importantes qu'il faut retenir d'un échange. Donc je vous laisse la parole, je laisse commencer le Libre Quotidien cette fois. Quel est le message que tu souhaites faire passer en moins de deux minutes, s'il te plaît.
Allez, on va y aller. Alors en fait, je voulais dire que contribuer au Libre, ça paraît assez compliqué et il y a peu d'initiatives pour faciliter ça. Mais promis, le monde du Libre essaye de s'améliorer sur ça. Vous êtes légitime. Ne croyez pas que vous n'êtes pas légitime pour contribuer à un projet. Il y aura toujours un type de contribution que vous pourrez faire. Vos connaissances peuvent toujours aider un projet. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. On ne peut pas avancer correctement si on n'est pas ensemble.
Merci. Et Maïwan ?
Oui, alors passer après ça, c'est pas facile. Mais du coup, dans la même veine, il y a cette chose de, en ce moment, de pas rester seul, et que soient les contributeurs, que soient contribuables, c'est de passer du temps. C'est possible ensemble, mais en tout cas à construire un monde meilleur, un monde qui nous correspond mieux et qui partage les mêmes valeurs que nous. Donc que ce soit celle du logiciel libre, que ce soit de faire de la, comme tu disais, de la transcription pour que ce soit accessible à plus de personnes, et donc de faire ensemble, de construire ensemble pour aller un peu plus loin. Et de prendre soin les uns des autres, c'est à ça aussi que ça sert les contributeurs, c'est de se retrouver pour prendre soin. Donc, peu importe la façon dont vous le faites, l'important c'est d'y aller ensemble.
Tu avais peur de ne pas réussir à faire une conclusion après la belle conclusion de Le Libre au quotidien. Je te rassure, c'était une très 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 belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite une très belle journée et bonne continuation avec vos projets. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Marie-Odile Morandi consacrée au thème « Le numérique que nous voulons ». Et pour cette troisième pause musicale, nous allons écouter « Night » par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Venons d'écouter Night par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous,
libre à vous, libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis un peu.
Je suis Abel Lavani de l'April, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi sous le thème « Le numérique que nous voulons ». Mon collègue Frédéric Couchet disait sur le salon de discussion qu'on innove aujourd'hui, et en effet c'est Laure-Élise Déniel, bénévole à l'April, qui va prêter sa voix à Marie-Odile, ou bien qui a prêté sa voix à Marie-Odile. Nous écoutons en fait un sujet qui a été pré-enregistré et on se retrouve juste après.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Lors de ma dernière chronique, fin 2021, j'avais parlé de l'une des conférences faisant partie d'un cycle de trois, intitulé « Les mardis du numérique éthique », organisée par le Pôle écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, mon coup de cœur se porte sur la transcription de la seconde table ronde de cette série, intitulée « Formation et culture numérique, un numérique inclusif, accessible et choisi », qui s'est tenu le 1er juin 2021. Big Blue Button était le système libre de visioconférence utilisé lors de cette table ronde. La notoriété des personnes présentes n'est plus à démontrer. Dory Bruyat s'occupe d'inclusion numérique, d'éducation aux médias numériques et de numérique éducatif en région Auvergne-Rhône-Alpes. Judicaël Courant est docteur en informatique, ingénieur et ancien professeur d'informatique en classe préparatoire. Jean-Christophe Becquet, que nous connaissons bien, est vice-président de l'April, mais aussi formateur en informatique libre et grand contributeur à OpenStreetMap. La table ronde était animée par Vincent Mabillot, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, avec la participation de Florent Cartelier du Pôle Écolo. Durant 1h30, sont abordées les problématiques concernant l'appropriation d'un numérique inclusif, accessible en termes de culture et d'éducation, et choisi. L'inclusivité commence par l'accessibilité. Pour pouvoir utiliser le numérique, il faut y avoir accès. La région peut agir pour s'assurer que les personnes qui en sont le plus éloignées soient incluses, et notamment dans les territoires ruraux, aient accès à Internet. C'est une question de justice sociale et d'équité que de couvrir le territoire aussi bien d'un point de vue technologique et de raccordement que du point de vue des services et de l'accompagnement. Il conviendra d'agir avec éthique et discernement pour s'adapter aux enjeux sociaux, culturels et économiques des divers territoires. Aujourd'hui, nous utilisons les outils informatiques pour communiquer, apprendre, travailler, exercer notre vie citoyenne, consommer. À chaque instant, et dans tous les aspects de nos vies, personnelles ou professionnelles, nous sommes dépendants de ces outils, mais personne n'est nativement compétent. Nous avons tous besoin d'être formés, et plusieurs acteurs interviennent. L'école, lieu de sensibilisation, d'apprentissage, des usages éclairés d'un numérique non contraint. La formation professionnelle, qui doit permettre d'améliorer la manière de communiquer, d'interagir, de s'afficher en public, mais aussi de monter en compétences et d'acquérir une maîtrise de l'outil plutôt que le subir. Et enfin, l'éducation populaire, avec tous les acteurs de la médiation numérique ainsi que les réseaux associatifs qui accompagnent ces usages. En 2022, la très grande majorité des services de l'État et des collectivités territoriales, voire 100%, devraient être dématérialisés, objectif affiché par le gouvernement, avec l'idée d'un service public augmenté jusqu'au dernier kilomètre. La plupart des actions devraient pouvoir se faire en ligne à partir de téléphone ou d'ordinateur. Mais ce numérique est un numérique subi, contraint. On le leur a imposé sans demander leur avis et ils n'ont contribué à quoi que ce soit. C'est la situation vécue par Judicaël Courant au sein du lycée dans lequel il exerçait. La région avait décidé, sans consulter personne, de remplacer tous les serveurs par du tout Microsoft, sans tenir compte de la réalité de chaque établissement et sans aucune formation prévue au niveau humain pour que les choses puissent être adaptées localement. Erreur que l'on retrouve, dit-il, depuis 1985 et le plan informatique pour tous. Comprendre les concepts est extrêmement important, car des choix sont faits au moment du développement de ces outils. La question de l'éducation au numérique est une question d'émancipation, avec l'idée qu'on va pouvoir s'autonomiser, se saisir des choses et les changer, agir sur son environnement. Comprendre et maîtriser son outil informatique, c'est ce que permet le logiciel libre. Il offre à chacun, en fonction de là d'où il part, de son appétence, un moyen fabuleux pour comprendre comment fonctionne un logiciel et comment fonctionne un ordinateur. Le logiciel libre permet d'aller au-delà des compétences instrumentales, manipulatoires, afin de développer ses propres compétences stratégiques. Jean-Christophe Becquet nous rappelle que les logiciels sont du savoir, que les quatre libertés accordées à chacun par le logiciel libre et les licences libres sont des outils juridiques pensés pour permettre l'accès à ce savoir. Historiquement, le numérique était plutôt un projet collectif. La philosophie du logiciel libre permet l'accès à tous, le partage des savoirs et leur amélioration collaborative. Construire collectivement et enrichir un ensemble et le partager. Les ressources numériques sont non rivales, ce sont des communs et la licence libre est une sorte de contrat social que se donnent les contributeurs pour travailler sur un même projet. Les contributions sont partagées sous licence libre et chacun bénéficie en retour de nouveaux savoirs, de nouvelles ressources ajoutées par tous les autres. On pense à Wikipédia, OpenStreetMap, mais aussi à ce qu'on appelle les communs pédagogiques. Dory Bruyat pointe les usages problématiques du point de vue de l'impact écologique, comme le stockage des données, le streaming et la gestion des matériaux rares. Mais le numérique permet d'éviter des déplacements. Les usages collectifs se passent plutôt en ligne. Les réseaux sociaux permettent des mobilisations citoyennes, des prises de conscience, avec émergence de formes politiques qui, au départ, n'avaient pas d'audience dans les principaux médias. Il s'agit d'un changement sociétal. 17% de la population est en difficulté face au numérique. Que fait-on pour ces 13 millions de Français qui ont besoin de pouvoir, évidemment, accéder à leurs droits ? La médiation numérique permettra à chacun et chacune de devenir un citoyen numérique, d'utiliser les technologies de manière active comme un levier d'expression ou de participation citoyenne. Comprendre permettra d'agir politiquement, de réagir, de faire des choix de société reposant sur des bases décidées collectivement. En contribuant, on peut adopter un modèle de valeur, choisir la philosophie qui permettra de construire une culture numérique bâtie sur du lien et non sur la captation de profits par quelques multinationales. D'où l'importance du choix d'un numérique libre. L'April défend la priorité au logiciel libre, d'abord dans l'éducation. Le numérique subi commence souvent à l'école, et si on enseigne l'informatique avec des logiciels non libres, on prescrit à des futurs consommateurs des outils non maîtrisés et non maîtrisables. Mais aussi dans l'administration et dans tous les aspects de la vie publique, parce que c'est le seul moyen qu'on a de maîtriser son informatique et de devenir autonome et libre sur le long terme. Jean-Christophe Becquet insiste sur la gestion des données ouvertes, de l'open data. Avoir à disposition des données publiques librement réutilisables constitue un formidable objet pédagogique qui permet d'appréhender des outils divers comme les tableurs, les logiciels de base de données, de visualisation, des données géographiques dont les citoyens peuvent s'emparer dans un esprit d'entraide, d'ouverture et de bienveillance. Cela devient aussi un lieu de rencontre et de mutualisation de toutes ces compétences pour participer à un projet commun, librement partagé et réutilisable dont les retombées sont illimitées. Une culture numérique libre et choisie permet de mettre en commun des capacités, de développer de nouvelles solutions et les faire évoluer en libre. Avec la mise à disposition de services numériques basés sur des outils libres, dans le respect des données, chacun et chacune profite de tous les avantages du libre en développant son autonomie et en préservant sa liberté. J'ai vraiment trouvé toutes les interventions de cette table ronde d'une très grande richesse, dont cette chronique d'une dizaine de minutes n'en est que le pâle reflet, et j'invite les auditeurs et les auditrices qui ne l'auraient pas encore fait à lire la transcription, sinon à la relire, et pourquoi pas, en ce début d'année, à participer à notre groupe Transcription, en s'intéressant par exemple à la troisième table ronde de cette série qui n'a pas encore été transcrite.
Donc merci à la fois à Mario Di Morandi pour la rédaction de cette chronique et à Laurélise pour la lecture. D'ailleurs, le texte a été enregistré, vous aurez remarqué, avec une formulation à la première personne. Donc c'est pour ça que je disais que Laurélise prête la voix à Mario Di. Vous trouvez ça bien ou vous préférez peut-être que le texte soit la troisième personne ? Ça, c'est typiquement une contribution que vous pouvez faire pour notre émission. N'hésitez pas à nous écrire à contact@libravou.org ou à écrire sur notre salon de web chat pour nous dire ce que vous en pensez. Nous approchons de la fin de l'émission et donc aujourd'hui nous n'avons pas d'annonce particulière à faire, mais je vous rappelle que vous pouvez consulter le site de l'agenda du libre à agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Maïwan, Le Libre au quotidien, Isabelle Carrère, Marie-Dille Morandi, Laurélise Daniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, et c'était sa grande première, Frédéric Couchet, et en support technique, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linga, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 janvier 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la politique logiciel libre de la ville d'Échirolles. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 18 janvier. D'ici là, portez-vous bien.